Merci à toutes et à tous pour votre écoute. En fin d'émission, Emma nous partagera un petit reportage. Elle s'est rendue aux 48 heures de l'agriculture urbaine le 24 avril dernier pour recueillir les ressentis de plusieurs participants et participantes au beau milieu d'un jardin partagé à Hérouville-Saint-Clair. Mais avant cela, depuis 1993, la journée du 3 mai est consacrée à la liberté de la presse, l'occasion de célébrer ses principes fondamentaux mais aussi d'insister sur la nécessité d'une presse indépendante pour préserver le partage d'une information de qualité. Dans cette optique, la presse locale joue un rôle essentiel. Reporters sans frontières s'y est intéressé dans un rapport publié en mars dernier, intitulé « France 2. L'information locale en première ligne ». On en parle aujourd'hui dans La Méridienne avec Laure Chauvel. Bonjour à vous.
Bonjour.
Laure Chauvel, vous êtes responsable du desk France et Italie de Reporters sans frontières et vous êtes la rédactrice avec le concours de Colomban Bilbo du rapport intitulé donc France, l'information locale en première ligne que j'évoquais à l'instant. Ce rapport, il paraît donc dans un contexte assez particulier, quelques jours donc là après cette journée mondiale pour la presse, mais ce rapport, il a été publié le 11 mars 2026, quelques jours avant le premier tour des élections municipales en France. On imagine que la temporalité de cette publication, elle n'est absolument pas anodine.
Oui, exactement. On a publié ce rapport juste avant le premier tour des élections municipales, qui sont des élections majeures, à la fois à l'échelle locale, mais aussi nationale, pour une démocratie comme l'est la France. Et l'idée, c'était de vraiment tirer la sonnette d'alarme sur ce paysage de l'info locale dont on parle très peu aujourd'hui, ou en tout cas pas toujours de la meilleure des façons. Et c'était de montrer à quel point l'info locale va mal, en tout cas ne va pas très bien en France, et à quel point il est important aujourd'hui de redorer son blason, de remettre cette info locale-là au devant du paysage médiatique à la globale, pour rappeler son importance en tant que contre-pouvoir essentiel dans une démocratie. Aujourd'hui, sans info locale, on n'a pas de citoyens éclairés pour aller notamment voter en connaissance de cause, mais également s'insérer sereinement dans le débat public quotidien.
De manière plus générale, qu'est-ce qui a convaincu Reporters sans frontières de consacrer ce rapport-là à l'information locale, au-delà même de cet aspect politico-politique avec le premier tour des élections municipales? De manière plus globale, il y a un constat général qui est absolument alarmant, comme vous venez de l'évoquer.
Oui, complètement. L'idée, c'était en effet de s'insérer dans ce récit politique et dans ce récit démocratique. Mais l'info locale a la vie dure depuis une dizaine d'années, avec aujourd'hui, sur ces deux, trois dernières années, des pressions vraiment qui sont de différents ordres, qui s'accumulent. Elles sont d'abord économiques. Aujourd'hui, le modèle économique des médias locaux n'est pas nécessairement le même qu'à l'échelle nationale, avec notamment les plateformes numériques les annonceurs traditionnels qui se tournent en fait vers les plateformes numériques et qui laissent aujourd'hui de côté beaucoup de petits médias locaux. Mais également des pressions qui sont à la fois physiques. Aujourd'hui, être un journaliste local, c'est s'exposer également en tant que personne, c'est enquêter sur ses voisins, c'est donc savoir où l'on habite. Donc c'est à la fois des pressions physiques, des intimidations, et c'est également des procédures judiciaires qu'on appelle des procédures bâillons, qui sont des procédures judiciaires abusives qui visent à intimider, à déstabiliser des médias, des journalistes, généralement avec de faibles moyens et des disproportions de pouvoir assez conséquentes. Donc c'est cette accumulation de pression, avec nous beaucoup de témoignages qui nous sont revenus à RSF, qui nous ont fait dire qu'il fallait absolument aujourd'hui tirer la sonnette d'alarme et en parler auprès à la fois des citoyens, des citoyennes, mais aussi des élus pour leur faire remonter le problème.
Oui, du coup, c'est en brillant sur les difficultés, les différentes pressions qu'on vient d'évoquer. Ces difficultés, ces pressions, elles viennent de plusieurs sources, aussi bien donc du monde politique, aussi du monde économique, et liées donc au financement des médias locaux de manière générale. Il y a tout un pan du rapport qui est dédié à cette question du financement, qui est une problématique de plus en plus prégnante.
Oui, complètement. Aujourd'hui, en effet, il y a des médias locaux qui ne sont financés ou n'étaient financés jusqu'à très peu par une grande majorité d'annonceurs, donc la publicité en somme, soit publicité locale, soit publicité nationale. Je pense notamment aux télévisions locales. Et donc là, aujourd'hui, on est face à un mur en termes de modèle économique de l'info locale avec une nécessaire diversification des moyens. Je pense à des gros groupes de presse, à Ouest France, au Télégramme, qui aujourd'hui ont décidé, parce qu'ils ont besoin financièrement, de créer un modèle soutenable économiquement via la création ou le partenariat avec des festivals, avec des courses, avec autre chose qui n'est pas de l'information, parce qu'aujourd'hui, l'information ne rapporte que très peu d'argent pour les médias locaux. Après, on a d'autres médias plus pure players ou des médias qui sont plus récents sur le devant de la scène médiatique locale, qui ne reposent, en tout cas, la majorité de leur financement ne repose que sur l'abonnement. Donc là aussi, c'est des manières d'essayer de se financer d'une autre façon et de faire confiance aussi aux abonnés, aux citoyens, aux citoyennes, pour restaurer aussi ce lien de confiance. Aujourd'hui, la presse locale, c'est la presse qui a, enfin, qui est vraiment inscrite dans le cœur des Français et des Françaises, avec un taux de confiance qui est plus élevé que les médias traditionnels. Donc il y a aussi cette idée de se reposer un peu sur ces bases-là. Et je me permets ici de rapidement dans les financements d'évoquer la question de la concentration des médias, puisque aujourd'hui, on parle beaucoup de concentration des médias à l'échelle nationale, en disant que c'est un problème. Alors en effet, c'est un problème, mais c'est pas la concentration n'est pas un problème en tant que tel, dans les pays du nord de l'Europe, par exemple, il y a une grande concentration des médias, mais elle est contrecarrée par des garde-fous en termes d'indépendance et de pluralisme de l'information qui sont solides, ce qui font qu'ils ont un très fort taux de liberté de la presse protégée, préservée. C'est moins le cas en France où aujourd'hui on a des grands groupes, des milliardaires qui détiennent des médias et qui ne respectent, enfin qui ingèrent, qui rentrent dans la ligne éditoriale des médias qu'ils possèdent. Mais en somme, par exemple, pour la presse locale, la concentration des médias, bien qu'elle soit importante, vient d'abord dans une nécessaire synergie économique et un besoin de se concentrer pour vivre économiquement. Après, et on en parlera peut-être ensuite, elle vient poser aussi des défis en termes de pluralisme. Aujourd'hui, pour la presse locale, on a 9 groupes qui détiennent plus d'un quotidien régional et qui possèdent au total 47 des 51 titres de la presse quotidienne régionale, par exemple.
Et justement, sur cet aspect de la concentration, on l'évoque, donc approfondissons-le un instant. La France, aujourd'hui, c'est le rapport, hein, je cite les termes employés dans le rapport, la France affiche un niveau de risque particulièrement élevé en matière d'infrastructure médiatique locale, 18e rang hein, dans l'Union européenne en la matière. Aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui s'accentue au fil des années, cet aspect de la concentration locale? On en arrive quand même aujourd'hui à, vous venez de le dire Laure, 47 des 51 titres de la PQR, la presse quotidienne régionale détenue par 9 groupes. On est quasiment à une mainmise complète sur l'ensemble des titres aujourd'hui sur le territoire français. C'est quelque chose d'assez inédit, peut-être dans cette ampleur?
De cette ampleur, oui, et effectivement, cette concentration s'est accentuée ces dernières années. Mais elle vient en fait s'inscrire dans un mouvement plus large cette restructuration du paysage médiatique avec, c'est un peu bateau, mais c'est la réalité, c'est que les plateformes numériques aujourd'hui captent une grande partie, si ce n'est l'intégralité du marché publicitaire et des financements donc. Donc cette concentration, elle s'inscrit vraiment dans cette nécessaire reconfiguration économique du paysage. En revanche, elle vient en effet poser problème lorsqu'elle vient s'attaquer au pluralisme de l'information, qui est une valeur qui devrait être chère à n'importe quel propriétaire de médias, n'importe quel élu politique aujourd'hui qui s'intéresse, ou en tout cas qui souhaite que chaque citoyen, chaque citoyenne ait accès à un niveau d'information pluraliste, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à plusieurs sources d'information et plusieurs lignes éditoriales de titres de presse. Avec cette concentration, on voit en effet, là je vais citer une étude de Mediacité qui a fait un gros travail sur le sujet, que le nombre de départements français en état de pluralisme, c'est-à-dire avec au moins 2 titres de presse détenus par 2 groupes différents, a été divisé par deux, donc passant de 34 à 17 en 10 ans, entre 2009 et 2019. Et ça, ça vient vraiment peser sur le droit à l'information des citoyens de pouvoir accéder à une information qui est indépendante et pluraliste. Aujourd'hui, dans certains départements de France, les citoyens, les citoyennes de ce département-là n'ont accès une ligne éditoriale qui est celle d'un propriétaire ou d'une propriétaire, bon, en général c'est des hommes, donc d'un propriétaire de médias en particulier. Donc ça c'est problématique parce que quand on voit le taux de pénétration de la presse locale dans le foyer des citoyens, des citoyennes français, on constate que ça pèse lourdement sur la façon dont on peut aujourd'hui se façonner sa propre opinion en lisant des informations et en s'informant au quotidien.
Et on l'a dit, donc, les médias locaux, de manière générale, rencontrent plusieurs défis, notamment ce défi du financement, on l'évoquait tout à l'heure, la nécessité de diversification, par exemple, le partage de contenu lié à des plateformes numériques, on l'a évoqué, nécessite aussi de trouver de nouveaux équilibres en termes de financement. Aujourd'hui, la situation est quand même assez encore incertaine à ce sujet.
Oui, la situation est incertaine, bien que les médias locaux s'organisent. Il y a une vraie prise de conscience, à la fois de la part des patrons de presse, de gros groupes, mais également des petits médias qui tentent de se diversifier, de comprendre comment aussi fonctionne à la fois le retournement des annonceurs traditionnels, en tout cas le virage pris par ces annonceurs, mais également l'entretien d'un lien, et vraiment j'insiste dessus, avec les abonnés, avec les citoyens, les citoyennes qui peuvent se le permettre de financer leurs médias locaux, en tout cas d'apporter, de donner ou de s'abonner sur ce type de médias. Donc aujourd'hui, effectivement, on a une part quand même la part de publicité baisse de plus en plus, mais la part d'abonnement reste quand même à des niveaux qui restent assez hauts. Je pense par exemple, on a modélisé dans le rapport des modes de financement de quatre types de médias, et notamment pour les pure players régionaux, on est quand même à 70% d'abonnement contre 13% de subventions, 7% de dons du public, et ensuite avec des partenariats, des mécénats à 10%. Mais là-dedans, on n'a aucune part de publicité, ce qui est peut-être l'avenir aussi aujourd'hui pour ce type de pure players régionaux. Mais aujourd'hui, nous, on lance aussi un vrai appel aux élus politiques. Et ce rapport, il vient aussi s'inscrire là-dedans. Et c'est pour ça qu'il s'est inscrit dans une période aussi d'élection. C'est d'appeler vraiment les élus, les nouveaux élus, les maires, mais également les parlementaires, le gouvernement, pour faire des subventions publiques, des aides à la presse, un vrai chantier, un vrai combat pour les médias de proximité. Aujourd'hui, on a besoin que les médias les plus vulnérables, qui sont souvent les médias de proximité, soient dotés de subventions publiques claires, fléchées, et tout cela soit vraiment rendu, enfin soit simplifié en fait pour ce type de médias-là. Donc on ne perd pas espoir, l'avenir n'est pas radieux pour les médias en général, mais il est vrai que pour les médias locaux, davantage encore aujourd'hui.
Vous parliez à l'instant de liens avec les élus de manière générale, obligé d'évoquer l'actualité très récente avec la fameuse publication donc du rapport à l'oncle qui a été publié donc hier à l'Assemblée nationale suite au vote de la commission d'enquête parlementaire des 30 votants et votantes qui ont donc approuvé cette publication. Un texte de près de 400 pages qui préconise 1 milliard d'euros d'économies ni plus ni moins sur l'audiovisuel public, entre autres la suppression de France 4, la fusion de France 2 et France 5. On en a suffisamment parlé, on connaît les conséquences néfastes que pourrait avoir ce rapport si toutes ces préconisations venaient à être appliquées. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui finalement du rapport qu'entretient la sphère politique, la classe politique de manière générale à l'environnement médiatique? On imagine que c'est un coup de boutoir dont l'audiovisuel public se serait bien passé en ces temps déjà un peu troublés.
Oui, complètement. En fait, à la lecture des conclusions de cette commission, la pensée profonde du rapporteur, elle est assez limpide. Pour lui, un bon audiovisuel public est un audiovisuel public soumis. Et c'est la mode en Europe en ce moment, hein, si je puis me permettre cette expression, c'est qu'aujourd'hui, depuis Orban en 2010 en Hongrie, jusqu'à aujourd'hui en France en 2026, on a une volonté politique de démanteler les médias de service public, en tout cas d'en faire des médias d'État. Là, aujourd'hui, on le voit très clairement dans les conclusions du rapport qu'il y a une volonté de revenir à l'ORTF, l'Office de radiodiffusion de télévision française, qui était un média d'État pendant lesquels l'audiovisuel public n'était ni indépendant ni impartial dans le traitement de l'information. Effectivement, là, on a une vraie remise en cause aujourd'hui enfin, en tout cas, les tensions entre élus et entre journalistes n'ont jamais été très au beau fixe. Mais c'est vrai que là, on a atteint un niveau quand même de violence et de violence à l'égard des journalistes, à l'égard des médias, qui peut-être n'a atteint son summum aujourd'hui avec cette commission d'enquête. Et qui en plus permet de délier les langues auprès de certains citoyens, de certaines citoyennes, qui, comme ils voient leurs élus se permettre d'accumuler des fausses informations, de violenter verbalement des journalistes, et ben ensuite sur les réseaux sociaux ou hors ligne se permettent d'être violents envers les journalistes. On le voit encore en manifestation, on le voit lors de la couverture d'événements publics, et ça c'est très problématique. Aujourd'hui, on a besoin d'un apaisement, hein, dans un moment de tension politique, dans un moment d'échéance électorale. On est quand même à un an des élections présidentielles, des prochaines élections présidentielles. Et pour cela, si on continue à parler du cas de l'audiovisuel public, on a besoin aujourd'hui plus que jamais d'un audiovisuel qui soit au service du public. Donc un audiovisuel public qui soit fort, qui soit solide. Et aujourd'hui, l'objet quand même de la commission d'enquête était le financement, le fonctionnement, la neutralité de l'audiovisuel public. Et quand on lit les recommandations, par exemple, la volonté de mettre sous tutelle du pouvoir exécutif, la nomination des dirigeants de l'audiovisuel public, on se rend bien compte que c'est une hypocrisie, une absurdité, totale. Aujourd'hui, on a, besoin de justement, d'enlever les tutelles politiques sur l'audiovisuel public et sur le lien entre les journalistes et les élus, pour, rendre, l'information la plus indépendante possible et la plus fiable possible aujourd'hui. Et là, c'est vraiment, ce rapport vient à contre-courant de tout ce qu'a besoin l'audiovisuel public aujourd'hui. Et bien, c'est vraiment catastrophique ce qui se passe. Ça vient vraiment porter un dernier coup de poignard dans la vitalité de ce qu'est l'audiovisuel public. Donc on appelle évidemment les parlementaires à s'opposer fermement à ces orientations et à toute traduction législative en la matière.
Oui, car pour illustrer un petit peu quand même de manière concrète avec des chiffres, l'audiovisuel public directement sur le territoire, on pense directement à France 3, ex-France Bleu, maintenant ici aussi également, qui sont encore dans de nombreux territoires les derniers grands acteurs vraiment de l'information locale rattachée à France Télévisions et à Radio France de manière générale. On parle ici de millions de personnes, d'auditeurs, d'auditrices quotidiens, quotidiennes, qui seraient concernées par ces groupes, voilà, qui écoutent au quotidien ces antennes-là. Qu'est-ce que ça changerait concrètement pour ces territoires au niveau du maillage territorial dans le rapport? Vous parlez de maillage sans, de territoire sans témoin, pardon. Qu'est-ce que ce seraient les conséquences concrètes sur les territoires?
Mais effectivement, aujourd'hui, on a un réseau public très fort qui maille, qui permet de continuer de densifier du mieux possible le territoire français, avec un réseau ici, donc ancien France Bleu, France 3, très fort. Et si aujourd'hui, donc les recommandations de la commission d'enquête du rapporteur, en tout cas, venaient à être appliquées ou transposées dans la loi, on aurait des territoires véritablement sans témoins aujourd'hui. Nous, dans le rapport, on pointe à RSF un risque de territoires sans témoins en disant qu'aujourd'hui, il n'y a pas de désert médiatique à proprement parler en France, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis. Mais sans la force de cet audiovisuel public-là, on se retrouverait avec des départements, je pense également à des départements d'outre-mer, qui aujourd'hui se retrouveraient sans information quotidienne, sans, avec la disparition de la presse écrite. Je pense notamment à l'importance de la radio en général, de la radio publique, mais aussi de toutes les radios associatives, les radios indépendantes qui maillent tout ce territoire-là. Ce serait dramatique pour, enfin, je le répète encore, mais pour le façonnement du débat public, pour l'insertion de chacun, de chacune dans à la fois des échéances électorales, mais pas que, dans la façon de s'approprier le monde. Les journalistes aujourd'hui, leur rôle, c'est de rendre intelligible le monde. Et sans eux, sans elles, notamment à l'échelle locale, ce qui permet vraiment littéralement de faire territoire, on se retrouve avec un déficit d'information et donc un déficit de démocratie avec des personnes qui ne vont plus voter. Pour donner un exemple un peu comparatif sur le sujet, la situation américaine, par exemple, elle a vraiment agi comme un signal d'alerte mondial. Aujourd'hui, près de 40% des médias de proximité ont disparu aux États-Unis, ce qui a laissé 50 millions de citoyens avec un accès limité ou inexistant à une information locale fiable. Et dans les 206 comtés où les médias locaux ont fermé, Donald Trump l'a emporté dans 91% des cas. Donc en fait, on se rend compte que aussi, avec cet exemple, quand l'information locale disparaît, c'est la promotion et c'est l'accession rapide au pouvoir de régimes qu'on peut considérer aujourd'hui comme autoritaires et qui viennent, dès leur premier jour, saper complètement le travail des journalistes et le droit à l'information des citoyens. Voilà un peu pour cette petite dérive qu'on peut percevoir aujourd'hui en France et qu'on souhaite contrecarrer aujourd'hui enfin, qu'on voit en Europe et qu'on souhaite contrecarrer en France.
Pour faire le lien, oui, avec une échelle plus globale, plus internationale, il y a quelques jours, Reporters sans frontières publiait son classement mondial de la liberté de la presse. La France stagne hein, depuis plusieurs années dans ce classement. Elle figure aujourd'hui au 25e rang mondial. On imagine que c'est un parfait reflet, finalement, de l'état de l'information locale.
C'est un parfait reflet de l'état de la situation de la liberté de la presse en France. Ces dernières années, en effet, la France stagne à la 25e place. C'est comme si aujourd'hui, la France avait atteint un plafond de verre, une espèce de stagnation, d'état de fait. C'est ni très mal, ni très bien. À l'échelle européenne, c'est pas un très bon classement. Et là-dessus, effectivement, l'état de l'information locale vient vraiment s'aligner avec ce classement-là, même si évidemment le classement de RSF porte sur des indicateurs légaux, donc vraiment comment la loi aujourd'hui s'organise pour promouvoir, pour préserver la liberté de la presse, sécuritaire, politique, sociaux. Mais là-dedans, effectivement, l'état de l'information locale vient clairement s'aligner avec ce constat. En revanche, aujourd'hui, nous, ce qu'on pointe plutôt à l'échelle globale avec cette place-là, c'est toujours une menace vraiment sur les journalistes, une intimidation de plus en plus flagrante par les forces politiques, qu'elles soient au pouvoir ou en tout cas qu'elles soient minoritaires ou majoritaires. C'est une accumulation avec vraiment une sorte de, aujourd'hui, une criminalisation du journalisme, pardon, en France et ailleurs, avec une accumulation de procédures bâillons sur des journalistes et avec surtout, et je tiens à le rappeler ici, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, une inventivité de plus en plus flagrante des prédateurs de la liberté de la presse, notamment au niveau du droit, avec un contournement du droit ou un usage du droit pas complètement subversif, qui vient bâillonner des journalistes avec des outils qui n'étaient pas utilisés jusqu'à maintenant. Donc c'est plus dans cet état-là que doivent se mettre aujourd'hui à la fois les organisations comme RSF qui protègent la liberté de la presse et le droit à l'information des citoyens. Donc c'est vraiment aller chercher toutes les manières dont on pourrait encadrer beaucoup mieux cet arsenal législatif-là, et ensuite à l'échelle politique pour les promoteurs de la liberté de la presse, en tout cas celles et ceux qui croient encore comme un vrai contre-pouvoir, de proposer des recommandations concrètes que RSF met évidemment à disposition.
Les recommandations justement de ce rapport, venons-y. Le rapport donc formule 12 recommandations, parmi lesquelles il y a un accent prononcé sur la protection donc justement des journalistes locaux et sur les pressions également vis-à-vis de l'indépendance éditoriale. C'est un pan entier donc de recommandations qui est formulé à ce sujet.
Oui, et recommandations peut-être aujourd'hui les plus... peut-être pas les plus importantes, mais en tout cas celles qui pourraient être mises en œuvre rapidement, avec notamment l'accession à, enfin en tout cas l'élection récente de maires et de nouveaux maires en France, avec notamment en effet la nomination dans les municipalités qui le peuvent d'un adjoint au maire en charge des médias et du journalisme local. Le premier à l'avoir fait, c'est Emmanuel Grégoire à Paris, qui a nommé un adjoint précisément en charge des médias. Mais soit un adjoint dans des grandes villes, dans des grandes métropoles, soit en tout cas des personnes qui puissent vraiment recueillir la parole des journalistes, notamment quand elles sont sur le terrain, qu'elles ne peuvent pas couvrir des événements parce qu'elles sont entravées soit par les forces de l'ordre, soit par les manifestants, et de pouvoir être là comme un médiateur des relations entre les journalistes et les pouvoirs en place dans le cadre d'un événement, d'une manifestation. Aujourd'hui, la couverture des événements, des manifestations est devenue une épreuve pour les journalistes de terrain, ce qui était vraiment moins le cas il y a une dizaine d'années, précisément encore plus pour les élus locaux. Donc il est important que ces liens se renouent, de mettre en place dans des préfectures, dans des sous-préfectures, des comités de liaison qui soient vraiment consacrés aux violences commises contre les journalistes. Et également, nous, on souhaite vraiment, et je sais qu'il y a quelques initiatives, notamment en Bretagne, sur le sujet, de mettre en place un code de bonne conduite sur les relations entre les élus et les journalistes. Ce serait primordial d'abord à l'échelle locale, mais absolument essentiel également en amont des élections présidentielles de 2027.
Et dernière question, Laure Chauvel, et je vais vous poser votre propre question que vous formuliez dans l'avant-propos du rapport qui est disponible sur RSF. Est-ce que l'info locale peut sauver un journalisme qui souffre aujourd'hui de défiance ?
Oui, RSF est persuadé en effet que le journalisme local peut venir aujourd'hui sauver le journalisme tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire défié avec un taux de confiance relativement bas, alors qu'aujourd'hui dans les sondages on voit que l'info locale a un taux de confiance relativement haut, avec 63% des Françaises, des Français qui lui font confiance, avec le premier en termes de diffusion, le premier quotidien France, c'est un quotidien régional, c'est Ouest France. Et le journalisme local, c'est un journalisme d'épreuve. C'est le journalisme qui vient comme un laboratoire du journalisme ensuite national, à l'échelle nationale. C'est peut-être en ça qu'il est important de beaucoup plus l'écouter, de venir proposer un cadre clair pour le protéger. L'idée, c'est pas du tout de mettre en concurrence les médias nationaux, les médias locaux, loin de là. En revanche, c'est de comprendre aujourd'hui leur complémentarité, ce qu'ils peuvent s'apporter, et de comprendre que le journalisme local a vraiment des leçons à donner dans sa manière d'aller sur le terrain, et de surtout d'aller vraiment échanger avec les citoyens et les citoyennes. Et c'est la demande vraiment qui vient des Français et des Françaises, c'est de venir raconter la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans réalité parfois dans laquelle les citoyens n'arrivent pas à se retrouver dans les médias nationaux. Donc c'est ce en quoi l'info locale peut venir sauver le journalisme dans sa globalité en France.
Le rapport donc France, l'information locale en première ligne est disponible en accès libre sur le site rsf.org ainsi que toutes les autres publications de Reporters sans frontières, bien évidemment. Merci Laure Chauvel d'être intervenue aujourd'hui dans La Méridienne.
Merci beaucoup.
Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
Juste avant de clôturer cette émission, nous allons revenir sur les 48 heures de l'agriculture urbaine qui faisaient étape à Caen les 24 et 25 avril dernier. Emma s'est rendue à Hérouville-Saint-Clair dans les allées d'un jardin partagé pour recueillir les impressions des participants et des participantes. Munie non pas d'outils de jardin mais de son micro, elle nous partage ce petit reportage.
Parce qu'il y avait de la menthe, il y avait du
Pour les 48 heures de l'agriculture urbaine, élus locaux, habitants, habitantes et professionnels se sont réunis au centre socio-culturel d'Hérouville pour un atelier jardinage. Raphaëlle Biraud est ingénieure en agriculture. Elle a fondé l'entreprise Physalis en 2020 pour accompagner les projets d'aménagement de jardins.
C'est aussi des jardins qui se veulent, bah, que j'appelle à vivre et à manger, donc vraiment des jardins où on a plaisir à venir pour passer du bon temps, rencontrer des gens, pour vivre un bon moment et puis pour récolter des choses pour son repas, pour un petit goûter, grignoter une framboise en passant, etc. Les 48 heures de l'agriculture urbaine, c'est un festival qui a été proposé il y a 11 ans maintenant par l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle qui s'appelle l'AFOP. Donc là, on est au centre social socio-culturel des Belles Portes à Hérouville-Saint-Clair. C'est Anissa, qui est animatrice agroécologique à la ville d'Hérouville, qui m'a proposé qu'on travaille sur cet espace-là aujourd'hui. Et donc, on a redessiné un petit peu avec des plates-bandes plus dédiées comestibles et d'autres plates-bandes plus fleuries. En fait, il y a pas mal d'oignons, je pense, de jonquilles, de narcisses, etc. On a enlevé tous ces oignons qu'on va rassembler dans une plate-bande et on libère une plate-bande dans laquelle on va replanter des aromates, beaucoup, parce que c'est ce que les personnes peuvent ramasser en passant. Surtout sur un espace comme celui-ci, au pied d'un centre social, c'est souvent destiné aux récoltes libres, quoi.
Et quand il s'agit de jardinage, tout le monde met la main à la pâte. Maya, Baya et Hermione ont 9 ans et elles ont décidé d'y consacrer leur après-midi entre copines.
On va planter après des graines. On est en train de retourner la terre pour planter plein de fleurs et enlever les détritus de choux.
On veut un avec. On peut manger des végétaux et un ou des fleurs à regarder.
Merci, au revoir!
Méguilère est récemment élue à la ville, mais c'est surtout en tant que maman qu'elle intervient sur l'atelier.
Aujourd'hui, ça me semblait important en fait de participer au moins avec ma fille, puisque mon fils est un peu moins enclin au jardin, à cette journée des 48 heures de l'agriculture urbaine, pour continuer en fait cette éducation et ce retour à la nature qui est très important en fait dans les valeurs que je veux leur transmettre.
Pour la deuxième édition, l'entreprise Physalis intervient pour coordonner les divers acteurs présents sur le festival. Raphaël Biraud.
On essaie de mobiliser à chaque fois une diversité d'acteurs, vraiment à proprement parler sur les jardins, sur l'alimentation, puis parfois un peu plus éloigné comme aujourd'hui avec Rouler Jeunesse qui fait connaître différents types de vélos adaptés pour des personnes qui ne sont pas forcément en mesure de rouler sur un vélo classique. Et donc voilà, Jérôme il loue des vélos à la journée et donc là il est venu en plus avec un vélo smoothie qui nous montre aussi qu'est-ce que c'est que la low-tech, comment on peut se passer d'énergie, etc. On tire un peu les fils au-delà de l'agriculture à proprement parler et de l'alimentation à proprement parler.
Jérôme Barrier, créateur de Rouler Jeunesse Loisir.
En fait, c'est un reste d'un ancien vélo sur lequel on a enlevé toute la partie arrière pour garder juste le hauban, mais on a gardé sa roue, son cadre et son guidon et sa selle. Donc quand on s'installe dessus, si on tient debout, c'est parce qu'il y a un socle en métal qui a été construit autour. À l'avant, on a mis une petite planche avec un bol de mixeur qui fonctionne avec la rotation d'une pièce qui est figée le long de la roue. Donc au fur et à mesure que la roue tourne, la petite pièce tourne sur elle-même et enclenche l'hélice. Ça vous peut vous faire un très bon smoothie ou un gazpacho ou une soupe avec l'énergie de vos jambes, puisque le principe, c'est le principe du vélo. On pédale, la roue tourne et on active le système.
Il est comment le smoothie, les filles ?
Il est très bon. Il a mélangé le monsieur du citron et de l'avocat.
Et le citron, il donne un peu... un peu amer, mais c'est quand même bon. Ça relève le goût.
Pour Cyril Bonne, conseiller municipal, l'objectif de ce festival dépasse celui de l'entretien des espaces verts.
Il faut améliorer le cadre de vie de tous, alors pas qu'Hérouville, mais nous on est vraiment attachés à ceci. Et c'est aussi important, ça crée du lien social, ça permet de mieux se connaître, d'apprendre à connaître les autres. Et voilà, d'apprendre à aimer sa ville autrement.
Il faudra tous en avoir un. Ils ont eu une idée intelligente. C'est une très bonne astuce.
Ce numéro de La Méridienne touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir écouté. L'épisode sera à retrouver en podcast sur le site phoenix.fm, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Merci évidemment à Émile, le garant de la technique. La Méridienne revient demain à 13h. Le prochain rendez-vous à l'antenne de Radio Phoenix, c'est La Belle Antenne, une heure d'actualité culturelle avec Anaëlle à partir de 18h. Bon après-midi à l'écoute de Radio Phoenix.